Mesdames et messieurs, bien chers amis, c'est évidemment toujours un choix profond et une grande consolation de voir réunir ici à Écône cette famille des amis et bienfaiteurs. Évidemment, on désirait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous parle. Celui qui a encore parlé l'année dernière, n'est-ce pas, notre cher fondateur. Et rappelons que c'était donc sa dernière conférence qu'il donnait, ce 7 mars, fête de Saint Thomas. Et comme le rappelait si bien ce matin, monsieur le directeur, ça nous montre bien que tout l'enseignement, toute la doctrine qui passait à travers la bouche de Mgr Lefèvre était l'enseignement de Saint Thomas, et à travers de Saint Thomas, l'enseignement de la Sainte Église. Certainement, Mgr est ce soir avec nous d'une façon particulière, et il y a beaucoup de preuves dans cette année passée qu'il est vraiment avec cette famille qu'il a voulu susciter. Beaucoup de preuves, n'est-ce pas, qu'il est au ciel, il est auprès du bon Dieu. Et essayons donc de parler ce soir de la Sainte Église et de l'apostolat de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis. Si nous parlons de la Sainte Église, il faut évidemment parler de cette crise terrible de la foi, qui de jour en jour s'aggrave. Il n'y a pas une pause, il n'y a pas un halt. Il y a un développement. Développement qui se déchaîne jour par jour, qui devient de jour en jour plus grave. Et on se demande, qu'est-ce que va rester finalement, après toutes ces années? Un petit groupe ici, une famille là, mais l'Église en tant que corps social, dans son apparence publique, est presque disparue, presque disparue. Il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de théologiens, et même des évêques, qui vraiment ne croient plus. Et nous avons actuellement en Allemagne ce phénomène d'un théologien qui s'appelle Eugen Trevermann, du diocèse de Paderborn, qui parcourt le pays et qui vient même ici en Suisse pour faire des conférences. Nomme théologien, pour ainsi dire, il s'appelle au moins comme ça, psychologue, qui dit qu'il faut comprendre l'Évangile de toute une autre façon, qu'il faut donner une dimension psychologique, et qui nie ouvertement, mais vraiment tous les temps, un après un autre, disant que, évidemment, Jésus-Christ n'a jamais fondé une église, n'a jamais fondé un sacerdoce, institué un sacerdoce, n'a jamais voulu un culte. Et tout ça, ce sont des déviations. L'Église a commencé à dévier au moins à partir du deuxième siècle. Or, les salles sont remplies de ces conférences et tous ceux qui veulent critiquer l'Église, qui veulent rouspéter, qui ne sont pas contents, qui veulent une autre Église, un autre Évangile, qui ont subi naufrage dans leur foi, qui veulent se voir approuver dans leur vice et dans leur iniquité, alors il y a des foules qui lui accourent. Alors ça, c'est un phénomène qui a une pleine dissolution. Or, en même temps, cet œcuménisme qui produit par lui-même l'indifférence dans les esprits et même dans les cœurs, cet œcuménisme fait de si grands ravages
continue d'être pratiqué, proclamé, approuvé, promu par les responsables de la hiérarchie. Et ça conduit au fait qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de catholiques, il faut bien le dire, qui maintiennent le dogme extra-ecclesia nulla salus. En dehors de l'Église, il n'y a point de salut. Il n'y a plus de catholiques qui maintiennent ce dogme, cette vérité révélée. Parce que, disent-ils, que tous les chemins, toutes les religions sont des chemins pour le salut. Et que Dieu s'est révélé de différentes façons. Une fois, il apparaît comme Jésus-Christ, une autre fois, comme Allah, une autre fois, comme Bouddha, une autre fois, comme Shiva, soit le dieu des hindous. Ce sont tous des différentes apparitions, tous des différentes modes d'apparition de Dieu. Le sondage qui était réalisé ici au Valais, en automne 1990, le montre bien. Les résultats funestes de toute cette orientation. Le fait que plus que 80% des catholiques du Valais pensent que toutes les religions mènent au salut éternel. Et c'est un signe évident, n'est-ce pas, que les gens vraiment perdent la foi et deviennent hérétiques. Carrément, il faut le dire. Et même apostat parce que l'hérésie, c'est un choix de certaines vérités, un refus d'autres, mais eux, au moins les leaders de cette révolution dans l'Église, ils éprennent les fondements, les bases. Et donc, ce sont pratiquement des apostats. Nous voyons comment ce décommunisme continue. Vous avez eu une nouvelle réunion à Malte, en automne dernier. Vous avez eu une nouvelle réunion le 5 octobre à Saint-Pierre de Rome, à l'occasion de célébrer un anniversaire de Saint-Brigitte de Suède, où le pape lui-même est entré en procession avec des évêques, entre guillemets, protestantes, revêtus en chape et mitre. Et eux, ils ont donné la bénédiction et ils ont prêché en Saint-Pierre. Or, il faut bien se rappeler que ces gens-là sont premièrement des purs laïcs, ils n'ont jamais reçu aucune ordination, ni sacerdotale, ni une consécration épiscopale, des purs laïcs. Ce sont des gens qui ne professent pas la foi catholique, mais qui sont des hérétiques d'après leur confession. Et qui sont des leaders des communautés hérétiques. Et le pape se trouve en compagnie d'eux, le laisse entrer avec lui en procession, le laisse prêcher et se met en pause avec eux au tombeau de Saint-Pierre. Il y a une photo sur la documentation catholique, cet organe officiel de l'Église en France, où on voit le pape entouré de ses deux faux pasteurs. Le 7 décembre, sur l'invitation du pape, sur son initiative, il y a une nouvelle réunion à Saint-Paul, en dehors du mur. Une nouvelle réunion, n'est-ce pas, de toutes les religions. Et maintenant, une nouvelle réunion est prévue à Bruxelles, du 13 au 15 septembre, sur l'invitation, finalement, du cardinal Daniels de Bruxelles. Et certainement approuvé par Rome. Voilà ce qui écrit la Libre Belgique le mardi 28 janvier 92, donc tout récent. Un message du cardinal Daniels en vue de la rencontre des religions pour la paix à Bruxelles. Plus de 300 représentants des grandes religions venus des quatre coins de la planète se réuniront à Bruxelles du 13 au 15 septembre prochain à l'initiative de la communauté des Saints Égidiaux. Et puis, la rencontre d'Assise, convoquée à l'initiative du pape en 1986, ce sera la sixième fois, après Assise, Rome, Varsovie, Paris et Malte, que des responsables religieux sont rassemblés et parlent le monde en vue de prier pour la paix. L'archevêque de Malines, Bruxelles, vient de diffuser à ce propos un message du cardinal Daniels, l'archevêché du Malines. Alors, on dit latin dans cet article, les religions si différentes les unes des autres ont toutes l'homme comme horizon ultime. Toutes les religions ont l'homme comme horizon ultime. Le cardinal Daniels souhaite que cette sixième rencontre puisse élargir et renforcer l'esprit de solidarité entre les croyants et donner des fruits de paix attendus par des millions d'hommes et de femmes dans le monde. Voilà. Alors, plus la Belgique, ainsi que la ville de Bruxelles, dans sa réalité de ville cosmopolite et de rencontre internationale, devenir cette année le symbole d'une nouvelle cohabitation entre les peuples dans le respect mutuel et dans la coopération pour la paix. Donc, le but ultime de notre activité, c'est plus la vérité, ni l'ordre surnaturel, la grâce du bon Dieu, mais c'est la cohabitation et la paix dans le monde, la paix sociale. Or, on voit que derrière cela, il y a une fausse théologie. Et malheureusement, il faut le dire, le pape est bien atteint de cette fausse théologie qu'il a puisée certainement en grande partie du père de Lupac, cardinal de Lupac, qui est décédé il y a seulement quelques temps, et qui lui, en définitive, ne voit pas une différence entre la nature et la grâce. Donc, pour lui, je simplifie un peu les choses, bien sûr, pour lui, la grâce est dans son noyau, déjà dans la nature, et donc le salut se trouve dans son noyau, dans toutes les religions. Et donc, tous les hommes sont actualités, en réalité, rachetés, et la mission de l'Église consiste justement dans les faits de leur rappeler, de leur mettre ça en conscience, qu'ils prennent conscience, n'est-ce pas, les faire prendre conscience, qu'ils ont racheté. Donc, la mission de l'Église est un processus psychologique, pédagogique. C'est pas d'apporter les saluts, mais c'est de leur faire comprendre, prendre conscience, qu'ils sont déjà rachetés. C'est ça ce que dit le pape actuel, quand il était encore cardinal et quand il prêche une retraite au pape Paul VI, et en son entourage, 1977, dans cette retraite, moi je suis au Vatican, il dit que chaque homme, du commencement du monde jusqu'à la fin, est racheté s'il le veut ou il ne veut pas, s'il le sait ou ne le sait pas. Il est racheté et il ajoute, il est justifié. Donc, le salut, lui, il est vraiment attribué. Il y a à ce sujet, pour montrer cette fausse théologie qui est derrière tout cet écuménisme, un livre qui est apparu il y a peut-être deux ans, trois ans, d'un professeur allemand, Johannes Thürmann, qui a d'ailleurs fait sa thèse auprès du cardinal Ratzinger, quand lui, il était encore théologien en Allemagne. Et le professeur Thürmann a mis tout ça en évidence d'une façon merveilleuse. Merveilleux. Et ce livre va prochainement, je pense, apparaître également en français, et ça mérite bien que vous le lisez. C'est un peu difficile, mais enfin, je pense, vous arrivez quand même de comprendre l'essentiel. Or, cette fausse théologie a trouvé sa canonisation, son approbation au Concile Vatican II. Dans le décret de la liberté religieuse, dans le décret sur l'écuménisme, dans le décret sur les autres religions non chrétiennes, partout on trouve ces pensées. Partout. Et là, on arrive à ce grand mystère décrit par la Très Sainte Vierge à la Salette, 1846, quand elle disait « Rome va perdre la foi ». Quelque chose de terrible, c'est pas une annonce, c'est une prophétie qui nous fait frémir, mais c'est une réalité. Rome va perdre la foi. Nous le voyons aujourd'hui. Et le cardinal Audi, dans une interview, a parlé du troisième secret de Fatima, et il dit que ce secret, certainement, traite de la crise de l'Église actuelle. Et cette crise qui est provoquée, dit-il, par un concile, bien, bien s'imaginer que c'est ça le contenu de ce message. Et c'est pourquoi les papes ne veulent pas le publier. Or, pour décrire un peu tout ce qui se passe, pour vous donner un peu un leitmotiv, pour ainsi dire, je crois, on pourrait citer deux lettres écrites le même jour par deux prélats de la Sainte Église. À savoir, deux lettres écrites le 2 juin 1988. C'est la fête de Dieu. C'était la fête de Dieu ce jour-là. L'une lettre est écrite par le cardinal Mayer, à cette époque président du Dicaster pour le culte humain à Rome. La deuxième lettre écrite par Mgr Lefebvre. Or, qu'est-ce qu'ils disent, ces deux prélats, dans leur lettre? Les deux font le même constat. Il n'y a plus de prêtres. Les prêtres manquent terriblement. Les deux font le même constat. Alors, les conséquences qu'il faut en tirer sont évidemment tout à fait autres. Et c'est là la distinction entre les deux. Le cardinal Mayer dit, puisqu'il n'y a plus de prêtres, il faut donc des adaptes, des offices sans prêtres. Ce n'est pas des laïcs. Donc, selon les datations, c'est une église laïcisée, sécularisée. Ce sont les laïcs qui doivent prendre la place. Voilà la solution. Le deuxième dit, je ne suis pas d'accord. Non, la solution est tout autre. S'il n'y a plus de prêtres, là, il faut sacrer des évêques. Il faut sacrer des évêques et ensuite susciter des vocations à droite et à gauche. Il y a toute une croisade pour des vocations, pour créer des séminaires, pour former ces jeunes séminaristes, pour les ordonner et pour ainsi reconstruire une église sacerdotale. Renouveler le sacerdoce catholique. Voilà la solution. Et je pense, vous êtes d'accord avec moi, que c'est la bonne solution, celle-là. C'est pas. Que celle du cardinal Mayer n'est pas la bonne, qu'elle est fausse. C'est pas. Et celle de Monseigneur Lefebvre, c'est la bonne. Et c'est pourquoi vous êtes ce soir ici, parce que vous êtes en accord avec cela. Mais là, c'est absolument amusant de voir que vraiment ces deux lettres sont écrites la même, sur la même date. Et juste la fête de Dieu, 88. Fête de Dieu, l'Eucharistie, la Sainte Messe au centre. Alors, avant que ces points de doctrine ne soient pas résolus, évidemment, on ne peut pas s'attendre à une amélioration des choses dans l'Église. Il y a encore juste quelques jours que je téléphonais avec le professeur Thurman,
déjà mentionné, ce théologien qui est en train d'écrire un deuxième volume examinant les encycliques du pape. Et qui n'a aucun a priori contre le pape. Au contraire, il a dit, j'ai essayé de comprendre le pape, de pénétrer dans sa pensée, d'analyser pour le mieux. Mais là, il a dit, n'est-ce pas, dans mon examen, ben, il y a des choses étonnantes qui se sont encore manifestées pour moi. Il dit, tant que le chef maintient cette position, cette théologie, c'est pas possible que les inférieurs puissent avoir une autre orientation, essentiellement, et c'est pas possible que les choses dans l'Église s'améliorent. Pas possible. Parce que l'Église est hiérarchique, monarchique, et donc si la tête ne tient pas bon dans le gouvernement et la doctrine, c'est tragique. Et c'est doublement tragique si les deux sont dans un mauvais état, à savoir la doctrine et le gouvernement. Alors, tant que les choses sont telles, c'est aussi difficile de trouver une normalisation de nos rapports avec cette Rome actuelle. Très difficile. On ne sait pas comment on pourrait vraiment arriver à harmoniser les choses, à s'entendre, à collaborer. Pour vous donner quelques exemples, on a maintenant un peu l'expérience de la fraternité Saint-Pierre, et on a un peu l'expérience du baron. Or, je pense, après 3 ans et demi, ces gens-là doivent se dire, s'ils sont honnêtes, là, leur expériment n'était pas très heureux. Pour vous donner juste quelques exemples, le baron, n'est-ce pas, invite maintenant tout le monde dans son monastère, pour des séances, pour des conférences, pour des causeries. Alors, quelle messe est-ce que ces gens-là disent? Quelle pensée est-ce qu'ils amènent avec eux? Récemment, d'après leur chronique, le vicaire général d'Avignon a donné une conférence au monastère sur la liturgie, aux moines. Or, tout le monde sait, n'est-ce pas, qu'évidemment, le vicaire général d'Avignon dit tous les jours la nouvelle messe. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien expliquer à ces moines? Monseigneur Perl fait tout pour pousser la fraternité Saint-Pierre d'accepter de donner la communion à la main. Il fait tout. Et récemment, il est allé en Autriche, à Salzbourg, où il y a un de leurs prieurés, de la fraternité Saint-Pierre, pour essayer à convaincre, dans un entretien de 5 heures, je vous prie, de 5 heures, les prêtres d'accepter finalement la nouvelle messe. Donc cette commission ecclésiadei, dont il est le secrétaire, qui est instituée pour protéger, promouvoir la messe, n'est-ce pas, des traditions, et n'est-ce pas, cette commission, n'est-ce pas, ruine justement ce qu'elle devrait protéger. Ruine. Effrayant. Et donc, c'est Rome, n'est-ce pas, qui veut absolument, n'est-ce pas, finir avec l'ancienne messe. Le cardinal Audi m'a dit le 7 octobre à Rome, quand je l'ai rencontré. Je ne veux pas nier, disait-il, que les membres de la commission ecclésiadei aient l'intention d'amener la fraternité Saint-Pierre vers la nouvelle messe. Alors, bien, il y a évidemment quelques cardinaux qui désiraient de tout leur cœur, et je pense qu'ils sont honnêtes, ils sont sincères, qu'il y ait un accord, une entente.
que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis soit reconnue officiellement, qu'il y a un statut canonique, qu'on puisse travailler dans la liberté, qu'il y ait encore davantage de vocations, etc. Mais alors, le cardinal Audi, comme vous le savez certainement, est venu justement un peu dans ses buts ici à Écône le 18 septembre. Et les professeurs lui ont dit, certainement, nous désirons tous, n'est-ce pas, qu'il y ait une entente. Mais comment c'est possible? C'est ça le problème. On ne peut pas l'avoir sous n'importe quelle condition. La même chose s'est déroulée quand je lui rendais visite le 7 octobre ensuite à Rome. Ben, je lui disais, éminence, si vous voulez nous amener vers la nouvelle messe, ben c'est pas la peine. Je vous le dis franchement, ouvertement, clairement, nous n'acceptons pas la nouvelle messe. Alors il disait, mais qu'est-ce que vous avez contre la nouvelle messe? Ben alors, il faudrait commencer tout un cours de catéchisme, n'est-ce pas? Mais à cette occasion, il disait, bon, vous pourrez quand même réfléchir. J'ai dit, bon, je vais vous écrire une lettre. Dans quelles conditions, comment on pourrait peut-être s'imaginer une normalisation? Alors, on a eu une session du Conseil Général depuis janvier. Et à l'issue de cette réunion, j'ai donc écrit une lettre au cardinal Audi sous la date du 6 janvier que je voudrais vous lire. Éminence, suite à la visite que vous avez voulu rendre au séminaire de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis à Écône le 18 septembre dernier, visite qui nous a bien touchés car nous voyons en elle un signe de votre intérêt pour notre œuvre modeste et un vrai encouragement. Vous m'avez exprimé le 7 octobre 1991, à Rome même, le souhait que je vous écrive, comme supérieur général de la fraternité, une lettre en vue d'une normalisation éventuelle des rapports entre la fraternité et les autorités romaines. Après réflexion en conseil général et consultation des confrères, qu'il me soit permis de livrer à votre éminence notre pensée en toute franchise et liberté. Vous savez mieux que quiconque que tous les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis confessent non seulement la foi catholique dans toute son intégrité et intégralité, mais maintiennent également un attachement sans faille au siège apostolique. Dans cette fidélité à l'Église, par voie de conséquence, ils se voient liés par les déclarations des papes et des conciles dogmatiques, en particulier par l'encyclique Cantacura du pape Pie IX condamnant la liberté religieuse, contredite par la déclaration Dignitatis Humanae du Concile Vatican II. Par les syllabus du même pontife, condamnant le mariage adultère entre l'Église et le monde, exprimé particulièrement dans la proposition 80. Or, le cardinal Ratzinger appelle le décret Gaudium et Spes du Concile Vatican II un contre-syllabus. Par l'encyclique Pascendi Dominici Gregis de Saint Pidis, condamnant le modernisme et le moderniste, et par le serment antimondaniste du même pontife, aboli par le pape Paul VI. Par l'encyclique Mortalium Animos du pape Pie XI, condamnant les pan-chrétiens et leur idéologie syncrétiste, pratiquée à la réunion d'Assises et à d'autres innombrables réunions de ce même genre, dernièrement encore à Malte, les 5 octobre dans la basilique Saint-Pierre à Rome, et le 7 décembre dans la basilique de Saint-Paul hors les murs. Par l'encyclique Cas Primas du même pontife, proclamant le règne social et universel de notre Seigneur Jésus-Christ contre la laïcisation des États catholiques et le laïcisme dans la société, propagé maintenant en application du Concile par les autorités de Rome. Par la définition du Saint-Sacrifice de la Messe par le Concile de Trente, or, les cardinaux Ottaviani et Pacci observent dans le bref examen critique du Novus Ordo Missae que cette même nouvelle liturgie s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans les détails, de la doctrine du Saint-Sacrifice de la Messe, telle qu'a été définie à la 22e session du Concile de Trente. Constatant clairement, avec une peine immense, une rupture
dans le domaine de la doctrine, dans la confession de la foi, dans la liturgie, dans l'attitude des autorités ecclésiastiques vis-à-vis du monde avec ses erreurs et sa corruption, nous ne voyons pas comment une collaboration ouverte et fructueuse sera possible pour l'instant. Si on ne veut pas sacrifier le témoignage rendu à la vérité à une diplomatie cachant le différend entre l'Église de toujours et l'Église conciliaire.